Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Alors, Alain Paré, il est ébéniste. C'est avant de faire des fours solaires, il a fait toutes sortes de constructions, mais de meubles principalement. Et nous sommes installés à Die depuis 3 ans. Et ça fait 15 ans environ que nous fabriquons des fours solaires. Et nous présentons les fours solaires dans les foires bio principalement, ou dans les foires agricoles, ou comme celle de circuit court nous convient parfaitement. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné cette envie justement de cuisiner avec ces fours solaires? Est-ce que c'est aussi le contexte climatique? Est-ce qu'il y a aussi cette notion de transition énergétique, d'énergie renouvelable? Ça, c'est une des préoccupations qui vous ont poussé ou amené à créer ces fours?
Alors, totalement. Nous avons été tournés vers l'économie d'énergie depuis 50 ans. Nous partageons notre vie depuis 50 ans ensemble. Et de tout temps, nous avons cherché à économiser. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est déjà construire un chauffe-eau thermique avec des panneaux thermiques sur le toit. Il y a 45 ans, 50 ans. Et puis après, nous avons cherché à économiser, à faire du jardin, à essayer de tout ce qui concerne la transition énergétique. Pour nous, c'est la manière de vivre. C'est complètement intégré dans notre mode de vie de chaque jour. Voilà. Sans en faire... on n'est pas des intégristes non plus, mais on réfléchit et... On essaye de voir tout ce qui est possible. Et puis, dans notre trajectoire, nous avons rencontré des gens qui réfléchissent aussi à ça. Et du coup, on est allé voir des Suisses qui construisaient des fours solaires adaptés à un modèle très abouti sur lequel ils ont réfléchi pendant 60 ans. Et ce modèle-là, il fonctionne bien pour les pays d'Europe. Donc, on s'est dit, il faut y aller là-dedans. Parce qu'eux, ils nous ont dit... Vous nous achetez les plans et vous y allez. Il faut vulgariser la cuisson solaire. Si tout le monde s'en empare, on fera des belles économies. Et c'est une autre manière aussi de voir la nature, de cuisiner dehors. C'est une autre façon de penser les choses et de voir le climat qu'on a, l'évolution. On peut cuisiner dehors tous les mois de l'année. Même en janvier cette année, moi je cuisinais, j'avais 140 degrés dans le four. Voilà. Donc, voilà.
Et on peut globalement décrire hein, ces fours. Ce sont des caissons avec un plan incliné qui permettent, par le biais d'une vitre, laisser passer les rayonnements du soleil. Cette inclinaison est spécifique ou alors c'est en fonction de l'inclinaison et de la direction du soleil?
Oui, c'est ça. Elle est spécifique pour les pays d'Europe. Celle-ci, elle a été définie, c'est environ 30 degrés. Mais il y a une autre association qui a développé les fours solaires. C'est Bolivia Inti, depuis très longtemps, qui est logée à Nantes, et qui fait les fours solaires pour les pays du Sud. Et l'inclinaison est différente. Mais nous, ce four, ils peuvent se mettre dans deux positions. Il peut être debout sur la tranche de côté, là, ou comme ça, parce qu'il absorbe mieux les rayons d'hiver et d'été. Mais moi, personnellement, je commence à être bien rodée dans l'utilisation, je ne le change pas parce que j'ai vu que ça marchait bien, même comme ça, au mois de janvier. Donc, l'inclinaison des rayons a moins d'importance que ce que je pensais.
Ces fours solaires que vous créez donc, sont issus de bois plutôt locaux. Il y a une technologie. Est-ce qu'il y a des bois spécifiques pour ça?
Alors, on a deux gammes de fours solaires. Ils sont tous, on les appelle les fours solaires Ulug. Ulug étant les initiales du couple de Suisses qui a conçu ça. Mais on a le modèle, ce qu'on appelle le modèle standard et le modèle familial, qui sont conçus en bois local, évidemment. Mon mari, il allait chercher même le bois dans la forêt, là où nous habitions avant. Et sinon, il prend du tilleul ou parfois du sapin. Et c'est des fours solaires qui sont faits pour être manipulés, transportés facilement. Le petit, il pèse 9 kilos seulement. Et le troisième modèle que vous voyez ici, c'est un four solaire en châtaignier massif. Parce que celui-là, il est fait pour rester dehors toute l'année. Donc, on a ce bâti en massif, mais la conception est la même, c'est-à-dire que c'est une caisse avec une tôle pliée, une tôle d'aluminium pliée, qu'on peint avec une peinture noire qu'on fait venir d'Allemagne. Et il y a deux vitres, mais qui ne sont pas collées, ce n'est pas un double vitrage. C'est deux vitres qui sont isolantes, avec un coussin d'air entre, parce qu'il faut qu'elles puissent se dilater dans les rainures facilement. Et puis, il y a un joint d'étanchéité, parce qu'une fois que vous avez mis votre plat dedans, vous n'ouvrez pas votre four et vous gardez toute la vapeur d'eau dedans. Et ça fait une cuisson douce, lente, savoureuse et sans eau parfois. Donc c'est une autre cuisson, une autre façon de cuire.
D'ailleurs, vous y cuisez quoi à l'intérieur ?
Toutes sortes de choses. Hier, j'ai fait cuire j'avais un petit bout de viande que j'ai mis, un petit bout d'agneau, parce que j'avais du monde. Et dessus, j'avais mis sous la vitre une poêle noire et j'avais coupé des pommes de terre nouvelles sous la vitre. Et du coup, bon, c'était pas comme c'était à la poêle, mais presque. C'était très bien. Donc, mais on fait cuire principalement tous les plats qui mijotent. Donc vous pouvez faire des ragoûts, vous pouvez faire des pot-au-feu, toutes sortes des gratins. On peut faire cuire des légumes tout seul avec un filet d'huile d'olive, comme les poivrons et les aubergines, c'est super bon. Mais je fais cuire aussi les légumineuses et les céréales. Et dans ce cas, je mesure bien l'eau qu'il me faut par rapport. Par exemple, je mets deux doses d'eau pour une dose de riz ou de lentilles et la cuisson est parfaite. Donc j'utilise le soleil dès qu'il est là pour cuire toutes sortes de choses.
Vous me parliez tout à l'heure de 140 degrés hein, en février, je crois, vous m'aviez dit. Est-ce qu'en été, les températures peuvent être plus hautes ?
Alors, justement, dans l'autre partie, il y a le réflecteur. Le réflecteur rabat, rajoute 20% de l'énergie. Alors l'été, le maximum du four, c'est 150 degrés. Mais c'est déjà beaucoup, parce que des fois, moi, j'ai pas envie de faire cuire des compotes aussi longtemps et aussi fort. Alors, je dérègle mon réflecteur pour aller moins haut. Mais en principe, la cuisson, la plupart du temps, elle se fait entre 90 degrés et 110, voire 120. Et l'été, on est souvent entre 130 et 150. Mais on peut moduler, soit on ne met pas face au soleil, soit on ne met pas le réflecteur. Du coup, on reste à 130 aussi. Voilà.
La quantité qui puisse être cuite, pour combien de personnes ça peut aller ?
Même dans le petit four standard, on peut faire cuire pour une famille de 5 personnes. Ouais. Et celui-là, alors là, on peut faire cuire plus. Mais le four familial, on peut. Alors, le four familial, moi, je le conseille pour les familles, par exemple, qui soit habitent dans le nord de la France et qui n'ont pas du soleil autant. Et quand ils ont 3 heures de soleil, ils peuvent profiter de faire cuire deux choses à la fois. Ou soit des gens qui sont gênés par la montagne, parfois, qui ont le soleil plus tard ou plus tôt, qui s'en va plus tôt le soir. Donc, en fait, on fait cuire plusieurs choses à la fois, le temps que dure le soleil.
Juste une question, est-ce qu'un temps légèrement couvert neutralise la capacité du four ?
Mais, alors, ce qui compte, c'est le ciel bleu. Ce qui me guide le matin pour mettre mon plat, c'est quand le ciel est bleu. Même s'il y a des nuages qui arrivent, le four est suffisamment isolé, parce que je n'ai pas parlé de l'isolation, mais c'est très important. Et du coup, ça fait une inertie. Ça peut descendre un peu de 10-20 degrés, mais ça remonte. Et dans ce cas, on peut finir la cuisson. Mais je peux faire cuire des gros morceaux. Hein. Je fais cuire un poulet de 2,4 kg en 3h15. Voilà. Un gigot d'agneau, très bien aussi. Donc on peut faire cuire facilement une quantité importante.
Ça peut même dorer un peu la surface ?
Comment ?
Ça peut dorer aussi la surface ?
Bien sûr, ça dort. Mais alors, vous mettez un gratin, il ne va pas changer de couleur pendant 1h30. Et à la fin, il gratine. Donc c'est ça qu'il faut être patient, en fait. Il faut juste attendre le bon moment. Et comment dire, le doré, c'est vrai que dans la cocotte fermée, le poulet, à la fin, il va être doré. Mais il ne va pas être autant croustillant, mais c'est ça l'intérêt, c'est qu'il reste moelleux. Donc vous le découpez à la petite cuillère. Donc c'est ça qui fait la qualité de la cuisson.
L'avantage de cette cuisson douce, c'est en même temps une préservation des saveurs. Hein. Pour vous, c'est le top, quelque part ?
Ah oui, complètement. C'est à la fois, on garde tous les nutriments, et puis ça n'attache jamais. On n'a jamais de plat à nettoyer, à récurer. Donc c'est une cuisson lente et savoureuse. C'est vrai qu'on a des amis qui nous disaient « Mais vous ne nous avez pas dit, mais surtout c'est bon !» Voilà.
Est-ce que ces fours sont... est-ce que certains professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, les utilisent à votre connaissance ?
Eh bien, on a été invités, mais on n'a pas pu y aller récemment. Il y a un restaurant à Marseille qui fait toute la restauration au soleil. Ils sont installés à Technopole et ils ont organisé un regroupement de toute la technologie solaire de cuisson. C'était très, très intéressant. Eux, les dernières, sur l'année 2024, ils ont cuisiné seulement 3 fois sans soleil à Marseille. Donc, mais ils ont un système avec des panneaux qui renvoient, un système élaboré, mais c'est vraiment intéressant de voir que certains... Et puis, je connais un monsieur qui fait de la torréfaction dans sa ferme. Il produit des graines qu'il torréfie tout au soleil. Et il choisit les jours de soleil, évidemment, pour faire sa torréfaction, mais ça marche bien.
Parce qu'en parallèle de ces fours, vous avez aussi le séchoir à soleil.
Voilà, on a le séchoir solaire, c'est-à-dire pour déshydrater les fruits et les légumes. Donc, vous, par exemple, le matin, vous disposez sur les paniers, on a 2 paniers, on dispose les pommes en lamelles ou les poires, et vous mettez face au soleil, je bouge 3 fois dans la journée, mon séchoir. Et le soir, c'est sec et je mets en pot, en bocal. Et je fais dessécher des tomates, je fais dessécher des herbes aromatiques. Par exemple, la menthe, quand on la fait traîner, elle est noire. Et là, elle reste verte, elle reste odorante. Et vous la mettez dans les pots fermés. Et ça vous fait la tisane pour l'hiver suivant.
Voilà. Est-ce qu'il y a certaines améliorations, justement, qui permettent à ces fours de suivre le cheminement du soleil également ? Ou alors, ça exige quand même une présence humaine pour tourner un peu ces fours.
Oui, pour l'instant, nous, on veut que ça soit du low-tech. Vraiment, on y tient. Parce que là, le four, il peut tomber en panne. La personne, elle va pouvoir le dépanner toute seule. Donc, c'est ça qu'on vise. Bien sûr, il y en a qui disent, on va mettre des systèmes. Mais nous, on n'a pas du tout envie de dépendre d'une technologie qui vient d'ailleurs, en plus. Restons simples avec ce qu'on sait faire. Et pour le grand bonheur dans une utilisation simple. Par contre, il m'arrive très souvent de mettre mon plat, de mettre de l'avance sur le soleil, c'est-à-dire je décale d'une heure, et quand je rentre 2 heures après, moi, le plat il est cuit, il est chaud, il attend, et c'est tout le confort.
Tout à l'heure, vous aviez envie de parler de l'isolation hein, de ces fours. Comment sont-ils constitués d'ailleurs ?
Alors en fait, autour de... Ça, ce serait mon mari qui pourrait en parler plus, mais il se cache, alors on va le laisser faire. Hein. autour de la cuve noire, on met de l'isolant. Alors avant, on mettait de la laine de mouton. Maintenant, on a trouvé le métis. Le métis, c'est un isolant naturel qu'on trouve dans les matériaux aussi naturels pour l'isolation des maisons. Ça a le même indice thermique. Et on le met dans tous les coins autour de la cuve, entre la caisse en bois et la cuve métallique, et on bourre d'isolant. Voilà. Donc c'est ce qui permet à un plat de finir sa cuisson, même si le ciel devenait un peu plus gris ou plus de nuages. Voilà. Donc ça c'est pour la partie technique. Et la tôle noire, on la peint avec une peinture noire qu'on fait venir d'Allemagne. Parce qu'elle est alimentaire, elle résiste à la température. Et on n'a pas trouvé la même chose en France encore. Voilà.
Il y a les tailles. Donc, il y a ces caissons qui sont de l'ordre, je dirais, de 40 par 50, grosso modo, pour les vitres. Donc, c'est une caisse un peu comme une caisse de... Ah, comment on appelle ça ? De bouteilles de taille. Enfin, ma question était de savoir, est-ce que ces fours-là sont les tailles minimales ou alors il est encore plus petit ?
Le four standard, c'est la taille minimum qu'on offre. On peut agrandir ce même four en l'élargissant sur le côté. mais on ne doit pas changer du tout l'angle pour qu'il soit efficace. Alors, on dirait qu'il n'est pas profond, mais en fait, si on le monte un petit peu, la casserole, on la met en travers, on a de quoi ranger un poulet important dans le petit four standard. Donc, et puis l'été, je fais mes conserves de fruits et j'arrive à mettre 8 bocaux dedans. Ou voilà, je mets des cerises, enfin tout ça, et je les laisse 1h30. Et voilà, c'est une autre manière de fonctionner, sans énergie.
Ces conceptions, donc vous les avez reçues de ce modèle Ulog de ces gens de Suisse. Est-ce que vous-même essayez de créer d'autres modèles ?
Alors oui, le four Ulog, c'est celui-là. Celui qui a été créé depuis, c'est celui-là. Parce que c'est vrai que moi, je pensais que c'était important qu'on puisse le laisser dehors toute l'année. Et du coup, moi, c'est celui que j'utilise maintenant tout le temps. Donc c'est le même principe, c'est le même angle. Mais surtout, il est costaud pour rester dehors. L'autre, on doit le rentrer parce qu'il ne supporte pas les intempéries, l'humidité. Il faut le protéger. Voilà. Donc mais par contre, les Suisses, ils ont tellement bien travaillé. C'est Ulrich Scholler et Lisa Grimm qui ont fait ça. Et ils ont vraiment travaillé pour que la forme soit bien aboutie. On n'a pas de raison de modifier les calculs essentiels. Par contre, on peut encore faire évoluer, effectivement, on pourrait réfléchir encore à d'autres choses. Mais nous sommes vieillissants, alors.
Voilà. Pour ce qui est de l'entretien, ça nécessite un peu un léger nettoyage entre deux cuissons.
Alors, le principe, c'est de ne pas mettre beaucoup d'eau dans la casserole, pas remplir à ras-bord, ne jamais faire verser dans le four. Parce que comme c'est une peinture, il ne faut pas la frotter. Donc, ce qui est préconisé, c'est de mettre très peu de choses en liquide, laisser faire. Et quand il est sale, un petit coup d'éponge pour enlever la poussière. Le plus embêtant, c'est que la vapeur d'eau se met entre les deux vitres. Donc, il arrive parfois que on soit obligé de dévisser le côté, le montant de côté, on sort la vitre et on la relave. Mais on ne le fait pas ça tous les 8 jours. Hein, voilà. Donc, en fait, l'entretien est vraiment très simple.
Alors, pour ce qui est de la création et de l'utilisation, on l'a vu, comment distribuez-vous ensuite ces fours ? Donc, vous profitez de ces foires telles que celle-ci, là, des expositions. Est-ce que vous opérez des dépôts ventes, par exemple, également ?
Non, pas de dépôts ventes. Nous avons un site que les personnes peuvent consulter en tapant d'ailleurs Alain Paré, ébéniste, four solaire, on trouve ça. Et non, ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup circulé dans les foires bio. On est allé faire la foire bio de Prime Vert à Lyon. Ça fait 12 ans, 13 ans qu'on l'a faite. On est allé à la foire bio de Colmar. On a même été à Namur, l'Albinque, en Isère, Méaudre, tout ça. Le Embrun dans les Hautes-Alpes. Mais maintenant, on se laisse inviter. En fait, quand on nous invite, on y va. Et plus c'est local, plus ça nous convient. Voilà, donc on compte aussi sur le bouche-oreille maintenant, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui ont été satisfaits et qui le racontent à d'autres. Donc on a des retours comme ça aussi. Voilà.
Et d'ailleurs, vous me parliez d'être présent sur cette foire bio de Prime Vert. Vous êtes les seuls représentants de ce type de four ou alors il y a d'autres réseaux ?
Alors jusqu'à présent, on était les seuls. Et cette année, ils ont été contactés par d'autres fabricants. Mais ils n'ont pas été choisis par Prime Vert, par la sélection du salon Prime Vert. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas de... Nous, ils nous font remplir une fiche et il faut déclarer ce qu'on met comme matériau. Et les autres ont été considérés comme non écolo, non bio, dégradables, etc. Et ils n'ont pas été retenus. Ils utilisaient du polystyrène, enfin des tas de choses. Nous, on a toujours fait très attention, et y compris le bois local, le liège, la peinture. On a tout vérifié pour que ça soit le mieux possible. Donc, Prime Vert sélectionne les exposants, mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu personne d'autre. Ouais, on a été étonnés d'ailleurs. Ça fait 20 ans qu'on circule avec nos fours solaires, mais vraiment par conviction. Quand on me dit que je suis commercial, ça ne me plaît pas trop, parce qu'en fait, moi, je suis tellement persuadée que si on était nombreux à utiliser un four solaire, nous arriverions à baisser l'énergie et arrêter de gaspiller. Ça serait vraiment le message à faire passer. Je trouve que c'est vraiment important. Il n'y a pas que le four solaire, hein, mais ça, c'est un élément parmi d'autres. Voilà.
Et puis surtout, il n'y a pas de dégagement de carbone. Hein. Et justement, avec l'été arrivant, avec les touristes et tout, est-ce que vous auriez l'idée peut-être d'être présent sur le marché de Die?
Alors, on l'a beaucoup fait, mais c'est vrai que maintenant, ça, je ne sais pas si ça serait important. Parce que mon mari a un atelier de fabrication à Die, qui est rue Anglaise. Alors, on a hésité, on s'est demandé, mais on choisit plutôt des choses avec des thèmes. Par exemple, on nous a invités récemment à la fête de la poule à Saint-Laurent-en-Royans. On y est allé. Et on a fait cuire une poule, d'ailleurs, sur le marché. Voilà. Non, le marché de Die, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a beaucoup de monde, je ne sais pas. On ne s'est pas posé cette question-là. Il faudra poser la question à monsieur.
Justement, en ce qui concerne les réceptacles, la cuisson, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est la fonte, par exemple, qui permet de capter le mieux la chaleur, de la conserver? Ou alors, ça peut être de l'aluminium ou de l'inox?
Non, là, c'est l'effet de serre qui se passe. L'action du rayon de soleil sur la vitre, hein, chauffe la caisse. Et comme c'est une caisse noire qui absorbe la chaleur et qui la conserve parce qu'il y a une isolation importante. Donc, c'est vraiment l'effet de serre. Et le but, c'est de garder cette chaleur le plus longtemps possible. C'est l'inertie qui est à l'intérieur qui fonctionne.
Il y a quand même malgré tout l'impératif de recouvrir les plats de cuisson, j'imagine.
La plupart du temps, j'utilise des casseroles fermées avec un découvercle noir, de préférence, toujours dans le même objectif de concentrer la chaleur. Mais les gratins, c'est sans couvercle, et les gâteaux non plus. Voilà.
Manière, il n'y a pas de projection pendant la cuisson, hein, ça se fait en douceur.
Non, il faut faire attention de ne pas trop remplir. Voilà, c'est juste la précaution à prendre pour ne pas salir et que ça ne retombe pas sur la peinture parce qu'il ne faut pas la gratter pour l'abîmer. Voilà, elle est relativement fragile.
Cette activité prend de l'ampleur au fil des années ou alors vous atteignez une vitesse de croisière?
Je ne trouve pas. Je trouve qu'on a un certain nombre de personnes. Au départ, les personnes intéressées, c'était surtout des femmes et surtout des personnes d'un âge. Notre génération, même plus âgée. Et maintenant, je trouve qu'il y a des jeunes, mais ils ne sont pas nombreux parce qu'ils pensent que ça va être compliqué, que ça demande de faire des choses extraordinaires, alors que moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que si on sait anticiper, on gagne du temps. Parce que le plat, il est dedans, on ne s'en occupe pas, on ne tourne pas, on ne pique pas, on ne fait rien et on attend. Donc, je pense que ce qui fait peur aux gens, c'est qu'ils pensent que ça va leur demander du temps. Et ce n'est pas ça. C'est juste d'anticiper, en fait.
Il faut prévoir, c'est tout.
Tout simplement, voilà. Oui. Et avoir envie de faire un petit peu autrement, de changer un peu quelques habitudes, certainement.
Pour ce qui est du séchoir solaire, il y a un processus particulier qui dure combien de temps? Par exemple, pour sécher des rondelles de fruits, par exemple, ça prend quel temps?
Ça dépend comment... par exemple, les pommes, ça se dessèche en une journée, mais je les coupe en lamelles d'abord et je les aligne bien sur le panier. Les poires, ça va prendre un jour et demi. Mais si vous saviez comme l'expérience est satisfaisante, parce qu'en fait, ça concentre le goût des fruits et des légumes. Une fois que c'est sec, vous les mangez, vous avez tout le parfum à l'intérieur. C'est parfait. C'est vraiment incroyable. Donc, je fais dessécher des tomates, je fais dessécher des poivrons, je fais dessécher des aubergines, je fais dessécher des plantes aromatiques. Et cette année, je vais essayer de faire dessécher des cuirs de fruits. Vous savez, faire concentrer et puis les mettre sur la grille. Parce que c'est en fait des aliments qui conservent tous les nutriments des fruits, sans sucre en plus. Donc ça, c'est quand même vraiment une autre manière de s'alimenter. C'est S'intéresser à la cuisson solaire, c'est s'intéresser au fait que l'alimentation soit saine et le plus possible biologique, parce que moi j'y tiens à ça. On n'ose même plus prononcer ce mot-là en ce moment, tellement qu'il y a des attaques. Mais c'est très important qu'on continue à se nourrir en se posant la question pour les enfants de supprimer un peu le sucre et de donner des bons aliments.
Par rapport au coût énergétique, quelle économie faites-vous par rapport à cette énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, est-ce que c'est calculable ?
Je pense que nous, pour ce qui est de la cuisson, j'ai supprimé... Bon, nous sommes une famille où on a beaucoup de monde qui passe. Et j'ai supprimé, certainement, diminué par 4 la consommation de gaz. Et quand je dis 4, c'est parfois 5. Tout simplement parce qu'en fait, je ne cuisine pas pareil les jours de soleil et les jours de pluie. Les jours de pluie, je vais faire vite fait sur le gaz. Et les jours de soleil, je laisse ma cuisson lente et savoureuse au soleil. Donc j'ai modifié ma façon de faire pour vraiment... Oui, je pense qu'on a divisé par 4 au moins, au moins. Donc c'est un investissement qu'on retrouve sur 3 ans, je pense. On l'a amorti, en fait.
Vous organisez également des ateliers de construction, parfois, de fours.
Alors, c'est des journées de montage. Mon mari prépare les kits. Tout est préparé, tout est finement, c'est même poncé, les trous sont percés. Et les personnes viennent et assemblent tous les morceaux du kit, ils plient ensemble la tôle, ils font la peinture de la tôle. Et puis après, l'après-midi, ils continuent à assembler les vitres avec le cadre et toute la petite quincaillerie qui va avec. Donc en une journée, les personnes arrivent le matin à 8h30 et le soir repartent à 18h environ avec le four construit et prêt à l'emploi.
Isabelle et Alain Paré, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps à Erdigua pour nous présenter donc Cuisiner avec le soleil. Merci beaucoup.
En tout cas, merci à vous de vous être intéressé à cette question.
Alison, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à cette fête du circuit court organisée à Charras avec entre le VS 101.7 de Erdigua et le comité des fêtes de Charras dont tu fais partie.
Oui, 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 c'est ça. Je suis secrétaire dans le comité des fêtes.
Alors, pour rappeler un peu aux auditeurs, à Charras, combien d'habitants, quelle altitude ?
Alors, il y a à peu près une trentaine d'habitants à l'année. Et sinon, Charras, en fait, il y a 3 hameaux. Ici, le Haut-Charras, il y a le Bas-Charras et il y a Chiton. Donc chacun a une altitude différente, mais c'est entre 800 et 1000 mètres à peu près.
Et chaque hameau a sa place, en quelque sorte, ou c'est plutôt Charras le Haut, où toute la population se retrouve ?
Non, il y a des habitants dans les 3 hameaux, voilà. Et puis après, justement, comme c'est des hameaux séparés, on n'a pas toujours l'occasion de se retrouver, mais c'est chouette d'avoir cette occasion-là aujourd'hui.
Alors, comité des fêtes de Charras permet quoi pour ses habitants ?
Et ben justement, ça permet de se retrouver, d'organiser des événements pour se voir, parce qu'il n'y a pas trop d'occasion. Après, on a fait une vogue à une période, et maintenant, c'est plus pour les habitants du village. Et puis, on a fait une bourse aux plantes aussi. Et là, on est sur un projet peut-être de se retrouver pour parler et retrouver l'histoire du village un peu.
D'ailleurs, ce comité de village, pour les 30 habitants ou un peu plus, est-ce qu'il y a une activité, un local qui permette à toute la population de se retrouver tout au long de l'année ?
Non, pas du tout. Il y a la mairie qui nous prête gracieusement son local quand on y passe. Après, si on organisait des choses plus régulièrement, je pense que ça serait possible justement d'utiliser la pièce de la mairie. Mais donc, c'est la mairie qui était l'ancienne école.
D'ailleurs, ce village de Charins, il y a quand même pas mal de bâtiments pour 30 habitants. Alors, quels sont les nombres d'habitants secondaires ?
Ah oui, il y a beaucoup d'habitants secondaires, mais rien qu'au niveau des électeurs, il y a plus d'électeurs que de résidents principaux. Moi-même, je monte juste de temps en temps, j'habite à Die, mais j'ai la famille ici, donc je monte les voir.
D'ailleurs, le résultat des élections, parfois, correspond à vos attentes ?
Eh bien, ici, à Charras, ça vote pas mal, oui. Après, ça dépend si on parle des municipales, des
on parle des municipales, pour ainsi dire.
Et ben après, sur les élections municipales, c'est assez, jusqu'ici, ça a été assez simple. C'était souvent une seule liste, de toute façon. Voilà. Donc, il n'y avait pas. Après, moi, je ne suis pas électrice ici. Donc,
Alors, comment s'est constituée cette organisation de cette fête du circuit court ? On vous a contacté au comité des fêtes ou alors vous avez aussi fait une demande peut-être ?
Et non, je crois que c'est Erdiwa et mon frère qui habite ici à l'année qui a discuté avec un des animateurs et puis qui cherchaient un village et puis ils se sont dit pourquoi pas Charins. C'était ambitieux quand même comme choix parce qu'un tout petit village comme ça, voilà. Mais c'était chouette pour nous, ça nous a permis de nous retrouver un peu. Fait, si on veut aller à Charins, il faut venir pour venir à Charins. On n'y passe pas, oui.
D'ailleurs, c'est le bout du monde, c'est le bout de la route, Charins ? Oui, encore une route ensuite.
Oui, c'est le bout de la route. Après, on peut redescendre par la piste forestière qui rejoint Beaumont, où il y a une autre piste forestière de l'autre côté qui va à Valdrome. Mais voilà, c'est. Sinon, oui, avant, il y avait un chemin qui passait dans les montagnes, avant, il y a très longtemps. Mais sinon, maintenant que la route passe en bas dans la vallée, si on veut à la Charins.
Il y avait les ânes, peut-être.
Oui, sûrement. Voilà des chemins muletiers qui passaient. Et puis, en plus, avant, quand il y avait encore le lac, dans la plaine du lac.
Et est-ce que, parfois, ce comité des fêtes organise, de temps à autre, un rendez-vous ou un moment culturel, peut-être une projection ou un repas, je ne sais pas.
Et bien, après, il y a eu des périodes où il y a eu des spectacles, des concerts. Voilà, ces dernières années, c'est surtout l'assemblée de village qui regroupe les habitants et où le maire et le conseil municipal parlent un petit peu de ce qui s'est passé dans l'année. Et après, voilà, il y a eu des spectacles, il y a eu des concerts, il y a eu la Vogue. Mais voilà.
Et la Vogue était propice justement pour les personnes qui vivent en secondaire ici. Et ça permet d'animer aussi un peu les soirées parfois ou les journées même.
Oui, c'est ça, c'était à l'été. C'était la fête de la moisson. Après, ça a commencé dans les années 70, ça c'était. Et puis jusque dans les années 90. Et puis on l'a relancé en 2007, entre 2007 et 2011. Voilà, la fête de la Meissou, la fête de la moisson.
Quelles sont les activités qu'on peut trouver sur Charins ? C'est plus un village de résidence ou alors est-ce qu'il y a certaines activités professionnelles liées à l'agriculture notamment ?
Oui, après ça a beaucoup réduit comme on en a parlé, c'est-à-dire qu'il reste deux agriculteurs, deux exploitations sur Charins. Voilà, il y a Thierry et Quentin Aléou et puis il y a ma belle-sœur Zoé Vuffray et son compagnon Florian, voilà.
Et d'ailleurs, l'agriculture locale et ancestrale, c'était quoi ? La lavande, la soie ou les noix, je ne sais pas ?
Oui, il y avait la lavande et puis après il y avait les brebis aussi, il y avait pas mal d'élevage, voilà.
Et les brebis justement Il y a cette végétation, ces arbres qui ont supplanté un peu ces herbages, ces alpages.
Oui, c'est ça. Voilà, avant, il y avait beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Et puis même, comme il y avait plus de population, chacun avait aussi un petit troupeau. Et puis, entre les brebis, puis il y avait toujours quelques chèvres au milieu. Ça a beaucoup changé, hein.
D'ailleurs, ce pic-là, c'était en 1850. Hein. Il y a eu une grande arrivée de personnes dans la Drôme, hein, qui fuyaient, je pense, cette dictature napoléonienne là, de Louis-Napoléon. Donc, est-ce que fut un temps où le village abritait combien d'habitants, peut-être, au maximum ?
Oui, il y a eu plus de 200 habitants. Au 19e siècle. Après, c'était quand même ça a été progressif. Ce n'était pas des arrivées. C'est vraiment la population du village qui a monté petit à petit et puis après qui a baissé avec l'exode rural au 20e siècle.
Et est-ce qu'il y avait, en quelque sorte, un référent ou un certain patronage qui existait ou alors c'était typiquement rural ici ?
Bon, il y avait une ou deux familles importantes, mais sinon c'était très rural. Hein. Oui, oui. C'était. Oui.
Le comité des fêtes du Charin, c'est combien de personnes qui la gèrent ?
C'est très variable. Voilà, c'est d'une fois à l'autre, on peut être 5 ou une dizaine. Ça dépend de ce qu'il y a à organiser. Et puis, on a toujours besoin de forces vives s'il y a du monde qui veut venir nous rejoindre. Voilà.
Et vous avez des perspectives pour organiser d'autres événements ou peut-être des choses plutôt régulières, constantes ?
Pour l'instant, pas trop. En fait, ça dépendra des personnes qui se mobilisent pour des prochains événements. Pourquoi pas refaire la fête l'année prochaine ? Mais il faudrait qu'il y ait du monde qui se mobilise et qui soit partant.
Oui, et puis... Il faut vraiment motiver le monde à venir à Charins, hein. C'est pas facile, je pense.
Oui, oui, tout à fait. Après, c'est un petit village qui vit sa vie. Il y a des actifs quand même, et ça, c'est chouette. Il y a même des résidences secondaires qui redeviennent des habitations principales, et ça, c'est vraiment chouette.
Ah, il y a une politique pour ça, chez vous, à vouloir repeupler ce village ?
Pas active. Mais c'est un fait, c'est qu'il y a des gens qui venaient ici enfant ou qui venaient en résidence secondaire et puis qui petit à petit se disent quand même on va essayer et qui reviennent. Donc c'est chouette.
Alors Charin, c'est situé au milieu des montagnes, à 1000 mètres d'altitude. Il y a de quoi se promener, de quoi aller à la découverte de la nature en tout cas.
Ah oui. Oui, on a de la chance. Hein. Comme dans tout le Diwa, on a vraiment beaucoup de chance.
Il y a aussi un repeuplement d'animaux.
Alors là, au niveau de la faune, oui, c'est sûr qu'il y a une faune très riche. Oui, oui.
Ne serait-ce que les castors, est-ce qu'il y en a présents ici à Charins qui permettent justement ces retenues d'eau parfois ?
Alors pas à Charins même parce qu'on est un peu en altitude, mais en bas, c'est sur la commune de Charins, il y a une partie de la Drôme et de la Ripisylve qui est sur la commune de Charins. Et oui, en effet, il y a des populations de castors et puis de loutres aussi qui reviennent, voilà, oui, oui.
Je crois que c'est bon, hein, Alison, il n'y a pas d'école à Charins.
Non. Fermé dans les années 70, enfin je crois 75. Il y a des habitants de Charins qui pourraient, à l'année, qui pourraient vous le dire, des anciens qui y ont été. Mais ouais.
Et justement, suite constater une augmentation de population sur Charins, sur le territoire de Charins en général.
Pas particulièrement, non. Je pense qu'on est peut-être un peu trop à l'écart, quand même. Mais voilà.
Alison, merci. Charins a une page internet peut-être pour découvrir un peu
Il y a le site de la mairie, mais le comité des fêtes, non. Voilà.
Eh bien, on se retrouvera certainement à bientôt.
Oui, merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.